24 heures à Paris, 2 heures en temps universel. Bienvenue à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Galen.
À la une, nouvelle confrontation entre le gouvernement israélien et le Shin Bet. Plusieurs ministres accusent l'agence de renseignement de coup d'État. En Serbie, un nouveau gouvernement très similaire au précédent. Le nouveau Premier ministre est un médecin inconnu en politique, proche du président Aleksandar Vučić. L'opposition dénonce des airs de déjà-vu. L'Iran n'est pas loin de disposer de la bombe atomique. Avertissement du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, alors que des pourparlers sur le nucléaire iranien se poursuivent entre Washington et Téhéran ce samedi à Rome. Et puis en Ligue des Champions, c'est une première depuis 2004. Le Real Madrid est éliminé dès les quarts de finale. Défaite contre Arsenal, les Anglais affronteront le Paris Saint-Germain en demi. En Israël, un nouveau bras de fer entre le gouvernement et le Shin Bet. Plusieurs ministres accusent l'agence de renseignement de coup d'État, et ce après l'arrestation d'un agent du service soupçonné de fuite sur une enquête. Et pas n'importe laquelle, puisqu'elle portait sur l'infiltration de la police par des éléments extrémistes hérités du rabbin Mir Kahan, le fondateur du mouvement raciste Ligue de défense juive. Explication de Michel Paul à Jérusalem.
C'est l'affaire qui fait la une des médias en Israël en cette période de fête. Un employé de haut rang du Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, est détenu depuis près de 10 jours. On lui reproche d'avoir transmis des documents classifiés à 2 journalistes et à un ministre de l'aile droite du gouvernement qui faisait état de l'ouverture d'une enquête sur l'infiltration de la police israélienne par des éléments kahanistes. C'est ce qui expliquerait notamment la passivité des enquêteurs après la multiplication des attaques de colons sur des Palestiniens en Cisjordanie. Pour la droite israélienne, il est évident que c'est Itamar Ben-Gvir, le ministre de tutelle de la police, qui est ciblé par cette enquête. L'agent incriminé à l'origine des fuites est qualifié de héros et de lanceur d'alerte. Dans l'entourage du Premier ministre israélien, il est à nouveau fait mention du « deep state », l'état profond, un des thèmes favoris du président Donald Trump. Et c'est une affaire qui vient à point alors que Benjamin Netanyahou tente de limoger le chef du Shin Bet, Ronen Bar, en qui, affirme-t-il, il n'a plus confiance. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
L'armée israélienne annonce avoir transformé en zone tampon 30% de la bande de Gaza, et ce tandis que l'aide humanitaire reste bloquée aux frontières. Quant aux négociations pour une trêve, le Hamas examine toujours la proposition israélienne. L'État hébreu a mis sur la table une trêve de 45 jours selon certaines conditions. D'ici là, Benjamin Netanyahou a ordonné de poursuivre les démarches pour obtenir la libération des otages encore retenus dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, des centaines de personnes se sont rassemblées à Paris et Marseille ce mercredi. Une mobilisation en soutien auprès des 200 journalistes tués à Gaza depuis le début de la guerre. En Serbie, un nouveau gouvernement presque identique au précédent. Đuro Makut a été nommé Premier ministre, un médecin inconnu en politique, proche du président Aleksandar Vučić. Et ce, après des manifestations massives contre la corruption menées par les étudiants qui ont provoqué la chute de l'ex-premier ministre en janvier dernier. Correspondance à Belgrade de Laurent Ruy.
C'est dans un parlement défendu depuis 6 jours par les gros bras du régime du président Vučić que les députés du parti présidentiel ont entériné le choix présidentiel d'un nouveau gouvernement. Il est dirigé par un nouveau premier ministre, Đuro Makut, un médecin inconnu en politique, que le président présente comme une personnalité de compromis. Mais sur les 30 portefeuilles du nouveau gouvernement, 19 sortants, les plus fidèles du président, sont reconduits au poste clé. À l'éducation est nommé Dejan Stanković, un ancien professeur qui avait accusé les étudiants contestataires de vouloir détruire l'État et qui prépare une loi de reprise en main des universités. À l'information, Boris Bratina, pro-russe convaincu, avait brûlé un drapeau européen lors d'une manifestation d'extrême droite avant son entrée en politique. Dans la rue, les étudiants ont immédiatement rejeté le nouveau ministre de l'Éducation, tandis que l'opposition parle d'un gouvernement de vengeance mis en place par le président Vučić. L'opposition ne renonce pas à sa demande d'un gouvernement de transition vers des élections libres. Laurent Ruy, Belgrade, RFI.
Steve Witkoff et Marco Rubio à Paris ce jeudi pour rencontrer Emmanuel Macron. L'émissaire spécial pour le Moyen-Orient et chef de la diplomatie américaine discuteront de l'Ukraine et de Gaza avec le président français. Une visite au moment où les relations entre les États-Unis et l'Europe sont particulièrement tendues à cause des droits de douane imposés par Donald Trump. L'Iran, dont il sera question lors de cette rencontre, à l'heure d'une nouvelle mise au point entre les États-Unis et l'Iran sur la question du nucléaire. Les pourparlers ont repris la semaine dernière et doivent se poursuivre ce samedi, non plus à Oman, mais à Rome. L'Iran a redit ce mercredi qu'il ne renoncera pas à enrichir l'uranium, Pierre-Olivier.
Le principe de l'enrichissement n'est pas négociable, déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien qui se dit prêt à instaurer un climat de confiance sur l'enrichissement, mais en aucun cas à l'arrêter. Il s'agit là d'une réponse, pour ne pas dire d'une mise au point de l'Iran après un virage sur l'aile ces dernières 24 heures des États-Unis sur le sujet. Mardi soir, sur X, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient a écrit que Téhéran devait stopper et éliminer son programme d'enrichissement et de militarisation nucléaire. La veille, pourtant, le même Steve Witkoff, interviewé sur Fox News, s'était abstenu de réclamer un démantèlement total du programme nucléaire iranien. Téhéran met donc les pendules à l'heure tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles négociations. Ce jeudi, le chef de la diplomatie iranienne devrait se rendre à Moscou, alors que la Russie se dit prête à faire tout son possible pour parvenir à une solution diplomatique. De son côté, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué les discussions en cours tout en se disant sceptique sur leur issue.
RFI 4h06 à Khartoum, l'ONU s'inquiète d'une nouvelle escalade du conflit au Soudan. Et ce au lendemain de l'annonce de la mise en place d'un gouvernement rival par les paramilitaires. Le pays entame sa troisième année de guerre civile. Au moins 8000 personnes ont été portées disparues en 2024. C'est ce qu'indique ce mercredi le comité international de la Croix-Rouge. Il souligne qu'il ne s'agissait là que de la partie émergée de l'iceberg. La guerre a éclaté le 15 avril 2023 entre l'armée régulière commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo. Elle a fait des dizaines de milliers de morts déracinés, près de 13 millions de personnes et plongé dans la famine une partie du pays. Les relations entre Paris et Alger traversent une nouvelle zone de turbulence. En cause, l'expulsion réciproque de 12 agents consulaires. Alors comment la diaspora algérienne réagit à ces annonces? Élément de réponse à Marseille à l'occasion du forum Ancrage, un événement qui regroupe des diasporas africaines venues repenser les relations entre la France et le continent. Reportage de Christina Okello.
Cuisine comorienne, manga africain, offre d'emploi, au forum Ancrage, on célèbre la richesse culturelle des diasporas et leur rôle dans le dialogue entre l'Afrique et la France. Mais au milieu de cette effervescence, la crise Paris-Alger inquiète Sarah qui, lui, est une étudiante franco-algérienne.
J'ai peur que, justement, avec ce qui se passe en Algérie, nous, on empathise dans le sens où ce sera nous les souffre-douleurs.
Et qu'est-ce qui vous inquiète dans cette crise?
Le traitement qu'ils vont réserver aux Algériens dans les administrations, alors qu'on n'a rien à voir, enfin, c'est des histoires de politique, mais on n'en a rien à voir et nous sommes des Franco-Algériens.
Nordine Idri, créateur de contenu à Marseille, s'interroge sur les conséquences de cette crise sur le quotidien.
C'est vrai que je me pose des questions. Comment ça va se passer au niveau économique, au niveau de l'immigration, du tourisme. J'espère qu'on va un peu renouer les liens des deux côtés, vu qu'à Marseille déjà il y a une grosse communauté algérienne. C'est vrai que ça serait cool que ça se reficelle un peu. Ouais.
Mais d'autres comme Saïd Sarji, président d'association, préfèrent garder leur distance.
La vérité, ça ne m'inquiète pas parce que je sais que entre la France et l'Algérie, c'est une longue histoire. Donc nous, les jeunes, on préfère pas s'en mêler, on laisse ça à la politique.
En déplacement au forum Ancrage, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exclu toute rupture avec Alger, tout en assumant la fermeté et la réciprocité de la réponse française. Christina Okello, Marseille. RFI.
Et puis avant de refermer ce journal du football avec les quarts de finale retour de la Ligue des Champions, le Real Madrid est éliminé après une défaite 2-1 contre Arsenal. Les Madrilènes n'ont pas su s'imposer après leur défaite 3-0 au match aller. Et c'est un véritable tremblement de terre à Santiago Bernabéu car le Real n'avait pas été éliminé à ce stade de la compétition depuis 2004. L'autre match de la soirée, c'était Inter Milan-Bayern. Les Allemands se sont accrochés, 2-2 score final. Mais c'est bien l'Inter qui se qualifie grâce à leur victoire 2-1 au match aller. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. RFI bientôt 4h10 à Paris 23.